L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Je sais pas vous, mais moi j'adore qu'on me raconte des histoires. Il y a des personnes qui les racontent mieux que d'autres, évidemment. Et je sais pas si vous aviez écouté l'épisode 113, c'est un vieil épisode maintenant, mais il avait eu énormément de succès et moi j'avais adoré l'enregistrer. C'était avec Christian Grataloup, qui est un géohistorien. Et depuis, j'essaye de trouver une raison de le réinviter. Il a écrit pas mal de bouquins, mais il en a écrit un que j'ai lu, que j'ai adoré, qui s'appelle « Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre ». Et donc, j'ai l'immense plaisir de vous offrir cet épisode avec Christian, où on va parler de, globalement, l'histoire de l'humanité. Il va vous raconter des tonnes d'histoires sur plein de choses que vous ne savez pas. Ça va vous surprendre, ça va vous faire rire, ça va vous étonner. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Christian.
Et bonjour Grégory.
Comment ça va aujourd'hui?
Ah bah aujourd'hui ça va très bien, je suis ravi de discuter avec vous.
Et moi je suis ravi de vous recevoir à nouveau, parce que j'avais adoré cet épisode qu'on avait fait ensemble. Parce que vous êtes, je crois que c'est ce que j'avais dit à l'époque, c'est le prof d'histoire que j'aurais... Géo-histoire,
oui.
Que j'aurais adoré avoir, parce qu'en fait vous racontez des histoires et c'est passionnant à chaque fois. Enfin en tout cas ça me transporte. Donc bravo pour ça déjà. Et bravo pour le livre. Pourquoi vous débutez le premier chapitre par 1537? En quoi cette date elle est importante?
Le chapitre parle d'un singulier pluriel. Le singulier, c'est l'unité du genre humain. Le pluriel, c'est celui de la diversité des sociétés. Unité du genre humain qui est biologiquement évidente aujourd'hui. Nous avons une même origine assez proche. Le Homo sapiens a 300 000 ans à peu près et est originaire d'Afrique tropicale, c'est sûr. Mais c'est justement en 1537 qu'un des moments clés de cette reconnaissance de cette unité s'est produit, c'est-à-dire le moment où on a reconnu l'humanité, l'appartenance à la même, au même genre humain. Alors certes, à l'époque, puisqu'il s'agissait d'un débat théologique en Europe, on aurait dit aux enfants de Dieu, c'est-à-dire aux êtres vivants dignes d'être baptisés. C'est à ce moment-là qu'on leur a reconnu aux Amérindiens cette dignité d'être humain. Alors souvent, il est plus connu de parler de la controverse de Valladolid, pour parler comme le titre d'un célèbre téléfilm, mais ce qui est juste, mais qui était que sur un point de détail et qui ne faisait que poursuivre cette reconnaissance de 1537 par l'Église catholique. Donc la question n'était effectivement pas évidente du tout, car en arrivant en Amérique, mais au départ, on ne savait pas qu'il s'agissait d'un nouveau continent, on croyait qu'il s'agissait de l'Asie. Donc ça ne posait pas de problème qu'il y ait des êtres humains en Asie, puisque c'était une des parties du monde reconnues par la théologie, celle peuplée par les descendants du fils aîné de Noé, qui s'appelait Sem, qui a donné le mot sémite ultérieurement. Donc qu'il y ait des êtres humains de l'autre côté de l'océan, ce n'était pas une surprise. Mais à partir du moment où on a pensé ces terres comme un nouveau continent, c'est en 1507, au moment où on le nomme Amérique, c'est à ce moment-là que s'est posée la question de l'origine de ces êtres humains et l'impossibilité qu'ils soient d'origine d'issue de Noé. Enfin, en tout cas, on s'est livré à des tas de gymnastiques intellectuelles, par exemple sur des tribus perdues d'Israël, qui était un mythe important, pour savoir si on allait pouvoir les relier à l'histoire, elle, reconnue théologiquement.
Et d'ailleurs... une des questions que vous posez, parce que ça peut sembler être une évidence, mais en fait, je pense que l'humain, c'est un peu la seule espèce pour qui c'est le cas. Comment se fait qu'il y a une seule espèce d'être humain?
Parce qu'elle s'est diffusée récemment. C'est effectivement, vous avez raison, c'est la seule espèce qui soit ubiquiste, comme je dis, c'est-à-dire qu'on trouve sur toutes les terres émergées. Il y a des humains dans les régions polaires, il y a des humains au Tibet, il y a des humains en Amérique, en Australie, en Afrique, il y a même eu, alors ça c'est souvent très récent, des humains dans les îles perdues du Pacifique. Mais, qui n'étaient pas perdues d'ailleurs, qui étaient perdues pour les Européens qui arrivaient ensuite. Mais cette extraordinaire présence des humains est unique. Ni les végétaux, ni les autres animaux, parce que nous sommes aussi des animaux, ni les champignons, qui ne sont pas exactement des végétaux, ne sont présents partout. Il y a toujours des espèces spécifiques qui sont liées à une autre histoire, qui est celle de la tectonique des plaques, au fait que, par exemple, l'Australie ou l'Amérique du Sud soient longtemps restées isolées. Alors, l'Australie n'a pas vraiment recollé avec d'autres parties du monde, l'Amérique du Sud, si. Donc, il y a environ 5 millions d'années, il s'est produit des tas de choses entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, plutôt au détriment, d'ailleurs, des vivants de l'Amérique du Sud. Mais l'Australie, non, ce qui fait qu'il y avait des marsupiaux, qu'il y avait des végétaux différents, qu'il y avait des koalas, par exemple, aussi. Donc, tous ces êtres vivants étaient très différents de ceux de ce que j'aime bien appeler l'Euphrasie, c'est-à-dire l'ancien monde, l'Europe, Afrique, Asie. Voilà. Donc, les humains, eux, ils se sont diffusés très récemment, parce qu'en temps d'évolution biologique, il y a un instant, j'ai parlé en millions d'années, là, il s'agit de quelques centaines de milliers d'années, 300 maximum, pour les humains sapiens. Peut-être un tout petit peu plus si on inclut l'ensemble des hommes modernes, comme on dit, c'est-à-dire Néandertal et Denisovien, et sans doute quelques autres qui ont disparu. Que nous avons dans notre patrimoine génétique. Hein. Nous sommes tous un peu néandertal, un peu denisovien, dans des proportions variables suivant les régions du monde, mais enfin, en gros, nous avons ça dans notre héritage. Donc, un seul humain, lui-même d'ailleurs plus ou moins métissé de ces hommes anciens, parce qu'il y a 100 000 ans à peu près, les sapiens étaient encore pour l'essentiel dans leur milieu naturel d'origine, c'est-à-dire l'Afrique chaude, l'Afrique sans froid. Alors, cette histoire est plus ancienne, puisque depuis qu'il existe des espèces qu'on appelle homo, c'est-à-dire des humains, il y a, cette fois-ci, c'est 2 millions d'années, il ne faut pas y inclure Lucie, hein, ou les Australopithèques, ceux qui ont divergé des chimpanzés il y a 7 millions d'années, donc là, c'est toute une préhistoire de l'humanité, mais dès du moment où il y a eu des humains, ils ont eu cette particularité de se déplacer. Se déplacer, alors, d'abord, pour une raison physiologique, c'est que nous avons une caractéristique, ce sont d'excellentes jambes. Globalement, nous ne sommes pas terribles comme animaux. Hein. Mauvaises des dents, une mâchoire peu puissante, des dents ridicules, des griffes qui n'en sont même pas, des muscles finalement qui n'ont rien à voir avec la constitution de la plupart des autres mammifères. Mais nous avons de bonnes jambes. Donc, on peut se déplacer en marchant longtemps, en courant. Enfin, nous sommes des marathoniens, naturellement. Parce que le milieu naturel d'origine, c'est la savane arborée pour ces humains. Donc, des archeurs, à la différence des autres primates, qui sont plutôt des arboricoles. Nous ne sommes pas très bons grimpeurs, mais nous sommes bons coureurs, nettement plus qu'un gorille. nous avons, de ce fait, une seconde caractéristique qui va expliquer qu'on va sortir de son milieu d'origine, c'est que cette station debout que permet ses bonnes jambes va autoriser, entraîner la fabrication d'une grosse tête, qui va avoir plein de conséquences. Ouais. Mais cette grosse tête, elle va permettre un grand cerveau, un très gros cerveau. Alors, c'est une aberration biologique, je vais y revenir, mais ça permet de créer des tas de choses et entre autres de s'adapter à des milieux naturels qui ne sont pas le nôtre. Donc, ni vous, ni moi, ni tous ceux qui nous écoutent ne sont faits pour vivre dans des milieux froids. Normalement, quelques nuits froides suffisent pour tuer un humain dans son état naturel, c'est-à-dire à poil, quoi. Oui. Tandis que, et puis bien sûr, il n'est pas possible de passer un hiver, même tempéré, même avec le réchauffement climatique. Donc, c'est seulement quand ils ont pu maîtriser trois choses, le feu, c'est-à-dire la chaleur qu'ils produisent eux-mêmes, et incidemment aussi la lumière, ce qui va jouer un rôle, le feu qui permet d'aller vivre dans des régions où il fait froid la nuit et froid pendant toute une saison. Le vêtement. Alors certes, des animaux peuvent se recouvrir de boue, enfin créer des sortes de vêtements, mais enfin ça ne va pas très loin. Tandis que j'aime beaucoup raconter que sans l'aiguille à tisser, on n'aurait pas colonisé tout le monde, parce que sans la petite aiguille à chat qui permet de coudre, on ne pouvait pas coudre des fourrures et passer dans des régions très froides, et l'Amérique n'aurait pas pu être peuplée, puisqu'elle a été peuplée par le détroit de Bering. Et d'autre part, l'habitat. Alors là aussi, les animaux produisent des tanières, des nids, les castors produisent des habitats assez sophistiqués, mais enfin, par rapport aux bâtiments que construisent les humains, rien à voir. Donc, le bâtiment, le vêtement, c'est-à-dire des microclimats dans lesquels on se met, le feu qui permet de modifier la température. Donc, à partir de là, les humains ont pu se répandre partout. Ça, c'est évidemment le produit des connaissances, des raisonnements qu'ils peuvent faire grâce à leur grosse tête.
Donc, la plus grande invention humaine, c'est l'aiguille.
Finalement. Alors, c'est une des grandes inventions humaines. Ça, j'en suis bien convaincu. L'aiguille à chat, l'aiguille de... Alors, bon, peut-être que c'est subjectif de ma part, parce que j'ai été élevé par une grand-mère couturière. Mais bon, je crois quand même que sans l'aiguille à chat, sans la possibilité de joindre alors, c'est pas des tissus, puisqu'il s'agit au départ de peau. Mais sans pouvoir joindre les éléments et créer un vêtement ajusté, bah, évidemment, dans une région froide où simplement un vêtement drapé ne suffit pas, parce que ça serait plein de vent coulis. Et évidemment, au moindre blizzard, on disparaîtrait. Mais l'aiguille, oui, c'est un élément important. Cela dit, le feu, je l'ai évoqué, est évidemment